Habemus Papam.
Léon XIII est élu sur le trône de Saint-Pierre à un moment critique de l'histoire de l'Église. Son prédécesseur, Pie IX, le pape martyr, a perdu quelques années plus tôt les états pontificaux, comme nous le rappelle Philippe Levillain, historien et auteur d'un dictionnaire historique de la papauté.
Rome était la capitale de la chrétienté depuis le martyr de Pierre. Les états de l'Église sont dépossédés de Rome par l'entrée des troupes de Piémont-Sardaigne dans Rome. La prise de Rome est un symbole très lourd.
La papauté n'a plus de territoire. Et cela pose un problème dès l'élection.
Léon XIII, qui est camerlingue, est assez âgé pour l'époque, 68 ans. Il va être le camerlingue qui va faire en sorte que le conclave de 1878 ait lieu à Rome. Ce qui n'était pas évident du tout, puisque une partie du conclave souhaitait qu'il ait lieu en dehors de l'Italie et que des sollicitations pressantes étaient faites à cet égard. Donc le cardinal Pecci, ancien archevêque de Pérouse, gagne la partie romaine. Je dirais qu'il rétablit Rome dans Rome, notamment par le fait que ce vote a lieu dans la chapelle Sixtine, ce qui d'ailleurs aura de longs effets parce que Jean-Paul II, dans sa constitution Universi Domini Regis, établira en 1995 qu'il faut que ce soit toujours à la chapelle Sixtine, contre vents et marées, qu'a lieu l'élection du souverain pontife.
Une fois élu, Léon XIII va redéfinir le rôle et la place du Saint-Siège.
Il va établir l'influence du Saint-Siège par le biais de ce qu'on a appelé les médiations, les bons offices, et donc il va être sollicité comme future figure de ce que va être la souveraineté du Saint-Siège en tant que sujet international pour intervenir dans des occasions de conflits mineurs, naturellement, comme le conflit sur les Carolines entre l'Allemagne et l'Espagne ou Haïti, etc., et comme médiateur. Il restaure les figures du Saint-Siège de façon tout à fait inattendue. Autrefois, le Saint-Siège passait comme un État comme les autres, qui avait un territoire plus une primauté spirituelle. Je dirais qu'il décharne le territoire au profit de la primauté spirituelle et diplomatique, c'est-à-dire que la diplomatie accompagne le spirituel. Il a donc un très grand rayonnement. Indiscutablement, c'est la figure de relais et non pas de transition de la papauté de l'Ancien Régime à la papauté moderne.
Mais le bras de fer avec l'Italie unifiée, entamé par Pie IX, n'en est pas terminé pour autant.
Du côté italien, il sera intransigeant. C'est-à-dire qu'il considérera qu'il est prisonnier du Vatican, et à plusieurs reprises, il dira, pour faire la part aussi du jeu, c'est un grand acteur, Léon XIII, qu'il souhaiterait partir du Vatican, être hébergé. Bon, en Angleterre, c'est impossible, à cause de l'anglicanisme, en Russie, à cause de l'orthodoxie. Il y avait toute une part, d'affect blessé dans ces situations, effectivement restreintes, d'une ville qui était enfin la capitale de la chrétienté, qui était en train de se développer comme la capitale de l'Italie nouvelle et unifiée.
C'est sur le terrain doctrinal que Léon XIII va ensuite asseoir son pouvoir, notamment en posant les bases de la doctrine sociale de l'Église.
Il va construire une œuvre très forte du point de vue doctrinal, notamment dans l'ordre de la réflexion sociale. On peut dire d'une certaine façon que Léon XIII a été le premier pape un peu sociologue avant la sociologie, qui a regardé le monde contemporain avec les yeux d'une personne qui veut essayer de scruter ce que l'Église est en train de perdre à défaut de pouvoir le discerner. Alors l'encyclique la plus célèbre de Léon XIII, qui est la seule encyclique de l'histoire de la papauté qui a toujours été commémorée, c'est « Rerum Novarum », le 15 mai 1891, qui est la grande encyclique sociale, dont le sous-titre c'est « De la condition des ouvriers », terme daté difficile d'ailleurs à trouver en latin, « opificium », on n'a pas très bien su comment traduire « ouvrier », « laboratores », « travailleur », enfin bref, qui propose d'abord l'organisation corporative du travail, qui met en avant la responsabilité du patronat, donc du capital, qui dénonce l'usure, et qui essaye d'organiser une charité distributive. Alors cette encyclique n'aura pas, contrairement à ce qu'on a dit très longtemps, le succès aussi triomphal que l'on croit, mais elle l'aura à long terme.
Car, de fait, on peut lire l'influence de Léon XIII et de sa doctrine sociale de l'Église dans l'histoire économique du XXe siècle.
Dans l'organisation d'un syndicalisme chrétien, dans l'infusion de la démocratie chrétienne, dans la conception de la valeur travail. D'une certaine façon, Léon XIII a inventé le principe de la participation. C'est-à-dire qu'il a été un des premiers à dire que la plus-value ne pouvait pas être uniquement au bénéfice du capital et qu'il fallait trouver un moyen d'y associer le travail. Donc le salaire doit être considéré comme une forme de propriété qui appartient au travail ouvrier, qui doit être rémunéré comme la terre est rémunérée par la rente foncière.
S'il critique lui aussi la modernité, Léon XIII se montre plus progressiste que son prédécesseur.
Il va faire ce qu'on appelle la petite monnaie, c'est-à-dire distribuer en monnaie intelligente le fameux syllabus de 1864 dans lequel Pie IX avait condamné les erreurs du monde moderne. Il va montrer qu'il y a une possibilité que l'Église comprenne le monde moderne en redistribuant cette condamnation en 80 articles ou 80 questions ou affirmations dans diverses encycliques.
Léon XIII sera le premier pape à être filmé et le premier à être enregistré. Un enregistrement de 1884 d'une immense valeur historique malgré une mauvaise qualité technique. Nous l'écoutons lire le début de son encyclique « Humanum Genus » sur la franc-maçonnerie.
Le genre humain, après s'être misérablement séparé de Dieu par la jalousie du démon, s'est partagé en deux camps ennemis.
En France, Léon XIII va se mettre à dos les monarchistes en se ralliant à la Troisième République. Pour autant, il n'est pas très apprécié du côté républicain.
Mais les républicains n'aiment pas beaucoup Léon XIII, il appelle le vieux renard du Vatican. Mais surtout parce qu'il reçoit quand même pas mal d'opposants à la République, notamment les catholiques sociaux. Et donc, ça ne fait pas des masses et considère que le cléricalisme est tout de même lié à la force d'un Saint-Siège qui est renouvelé dans son énergie. Mais il n'y a pas d'hostilité fondamentale. Il y a même, très curieusement, un certain respect pour la force de conviction d'un personnage qui, à partir de 1890, qui a 80 ans, apparaît quand même comme le vieillard du Vatican en plus.
C'était Philippe Le Villain, historien et auteur d'un dictionnaire historique de la papauté, qui nous parlait de Léon XIII.